Chapitre 28. Après avoir traversé un sombre et puant corridor, d'autant plus puant que des ordures s'y étalaient librement sur le plancher, Nekhludoff et l'Anglais, sous la conduite du directeur, pénétrèrent dans la première salle des condamnés aux travaux forcés. Ils y virent environ 70 prisonniers, dont la plupart s'étaient déjà couchés pour la nuit. On avait apporté tous les lits, l'un contre l'autre, au milieu de la salle, de sorte que les prisonniers étaient couchés côte à côte. À l'arrivée des visiteurs, tous se relevèrent brusquement avec un grand bruit de chaînes, et Nekhludoff fut frappé de l'éclat de leur crâne nouvellement rasé. Deux d'entre eux, cependant, ne se levèrent pas. L'un était un tout jeune homme, rouge et tremblant de fièvre, l'autre, plus âgé, ne cessait point de gémir. L'Anglais demanda si le jeune prisonnier était malade depuis longtemps déjà. Il n'était malade que depuis le matin. Mais l'autre prisonnier souffrait depuis longtemps d'une maladie d'estomac, et l'on attendait d'avoir une place libre à l'infirmerie pour l'y envoyer. Puis l'Anglais pria Nekhludoff de vouloir bien traduire au prisonnier quelques mots qu'il avait à leur dire. Et il lui apprit du même coup que tout en voyageant surtout en Sibérie pour y étudier le régime de la déportation, il s'était aussi chargé de répandre parmi les déportés la bonne parole évangélique. Je voudrais leur dire que Christ est mort pour les sauver, qu'ils croient en lui et ils seront sauvés. Et voici le livre où cela est écrit. Il pria Nekhludoff de traduire ce petit discours. Après quoi il tira de sa poche un paquet de nouveaux testaments, reliés en carton de diverses couleurs, et aussitôt une foule de grosses mains aux ongles noirs se tendirent vers lui, se repoussant l'une l'autre. Il distribua entre elles quelques exemplaires du petit livre et sortit pour passer dans une autre salle. Dans la seconde salle, même scène, même manque d'air, même puanteur. Comme dans la première salle, une image pieuse pendait entre les fenêtres, ayant vis-à-vis d'elle le cuveau aux ordures. Comme dans la première salle, une soixantaine d'hommes étaient couchés côte à côte, qui se levèrent en sursaut à l'approche des visiteurs. Mais cette fois, il y eut trois hommes qui ne purent se lever. Deux se redressèrent un peu sur leur couchette, le troisième ne jeta pas même un coup d'œil sur les nouveaux venus. L'Anglais pria Nekhludoff de répéter son discours et distribua de nouveau quelques évangiles. Dans la salle suivante, il y avait également trois malades. L'Anglais demanda au directeur pourquoi on ne réunissait pas tous les malades dans une seule pièce. Mais le directeur répondit que c'étaient les malades eux-mêmes qui ne le voulaient pas. Leur maladie, au reste, n'était pas contagieuse. Et l'infirmier les visitait et leur donnait tous ses soins. « Oui, voilà bien 2 semaines qu'on n'a pas vu le bout de son nez, » murmura une voix. Sans rien répondre, le directeur passa dans une autre salle. Et dans cette salle, et dans la suivante, et dans toutes les salles, le même spectacle s'offrit aux visiteurs, et la même scène eut lieu. Même spectacle et même scène dans les chambres des déportés, dans celles des condamnés à l'emprisonnement. Partout, Nekhludoff et son compagnon virent les mêmes hommes, affamés, inoccupés, malades, plats, sournois, plus pareils à des bêtes qu'à des créatures humaines. Au bout d'environ une demi-heure, l'Anglais, qui d'ailleurs avait épuisé sa provision d'évangile, renonça à faire traduire par Nekhludoff son allocution. Évidemment, l'horreur de ce qu'il voyait, et surtout l'écrasante puanteur, avait eu pour effet de déprimer toute son énergie. Et il passait machinalement de chambre en chambre, se contentant de répondre « All right » à tous les renseignements que lui fournissait le directeur sur le nombre des prisonniers et la qualité de leur peine. Et Nekhludoff, lui, allait comme dans un rêve, sans rien voir, sans rien entendre, sans trouver la force de partir ni de rester. Et de minute en minute, il se sentait plus honteux et plus désespéré. Dans une des dernières salles qu'on visita, Nekhludoff fit cependant une rencontre qui le secoua de sa torpeur. Il vit là, parmi des déportés, le même étrange petit vieillard qu'il avait eu pour voisin le matin sur le bac. Ce petit vieillard, vêtu d'une chemise en lambeaux et d'un pantalon rapiécé, pieds nus, se tenait assis à terre dans un coin et braquait sur les visiteurs un regard sévère. Son visage ridé paraissait plus concentré encore et plus animé que sur le bac. Et tandis que tous les prisonniers de la salle, à l'entrée du directeur, s'étaient redressés d'un seul mouvement et avaient sauté sur leurs pieds, le vieillard continuait à rester assis. Ses yeux luisaient et ses sourcils se fronçaient de colère. « Allons, debout !» lui cria le directeur. Mais le vieillard haussa les épaules et sourit avec dédain. « Ce sont tes valets qui se mettent debout devant toi. Mais moi, je ne suis pas ton valet. Tu as la marque là sur ton front, » poursuivit le vieillard d'une voix exaltée. « Qu'est-ce que c'est ?» dit le directeur sur un ton de menace. « Je connais cet homme, » intervint Nekhludov. « C'est un original. Pourquoi est-il en prison ?»« Eh, c'est la police qui vient de nous l'envoyer pour vagabondage. » « Nous la supplions de ne plus envoyer personne, mais c'est comme si on chantait, » fit le directeur. « Et toi aussi, à ce que je vois, tu appartiens à l'armée de l'Antéchrist, » dit le petit vieux, s'adressant à Nekhludov. « Non, je ne suis ici qu'en visiteur, » répondit Nekhludov. « Ah, tu es venu voir comment l'Antéchrist torture les hommes ? Eh bien, regarde, vois !» Il les a pris, il les a enfermés en cage, de quoi composer toute une armée. Le devoir des hommes est de gagner leur pain à la sueur de leur front. Et lui, l'Antéchrist, il les tient enfermés, il les nourrit sans travail, comme des porcs, pour en faire des porcs. « Que dit-il ? » demanda l'Anglais. Nekhludov lui répondit que le vieillard accusait le directeur et ses pareils de tenir enfermés des êtres humains contre toute justice. Demandez-lui donc comment, à son avis, on doit se comporter avec ceux qui n'observent pas la loi. Dit en souriant l'Anglais. Nekhludov traduisit la question. Le vieillard se mit à rire, découvrant quelques dents, noires et cassées. « La loi !» s'écria-t-il avec mépris. « Ah oui, tu peux en parler !» Il a commencé par s'emparer de la terre. Il a dépouillé les hommes de toutes leurs richesses. Il a supprimé tous ceux qui lui résistaient. Et ensuite, il a écrit la loi pour dire qu'on ne devait ni tuer ni voler. Je te certifie bien qu'il ne l'aurait pas écrite avant, sa loi. » Quand Nekhludov lui eut traduit cette réponse imprévue, l'Anglais sourit de nouveau. « Mais enfin, dit-il, demandez-lui comment on doit se comporter aujourd'hui à l'égard des voleurs et des assassins. » « Tu lui répondras, dit le vieillard à Nekhludov qui lui avait transmis la question, tu lui répondras qu'il doit commencer d'abord par effacer lui-même de son front la marque de l'Antéchrist. » Et qu'il aura assez d'ouvrage, s'il le fait, pour n'avoir plus le temps de s'occuper des voleurs ni des assassins. Allons, répète-lui ça dans sa langue. Il est bien amusant, dit l'Anglais, en entendant sa réponse. Et il sourit encore et sortit de la chambre. Nekhludov était resté en arrière. Le vieillard, s'adressant à lui, poursuivit son discours. Fais ton affaire à toi, et ne t'inquiète pas des autres. C'est Dieu seul qui sait qui punir et qui récompenser. Nous, nous n'en savons rien. » Puis, comme s'il avait renoncé à vouloir convertir Nekhludov, « Mais non, lui cria-t-il, je n'ai rien à te dire. Va-t'en, passe ton chemin. Tu as assez vu maintenant comment les esclaves de l'Antéchrist donnent des créatures humaines en pâture aux poux. Va-t'en maintenant t'amuser ailleurs. » Lorsque Nekhludov rejoignit ses compagnons dans le corridor, l'Anglais était arrêté devant la porte entr'ouverte d'une pièce sombre et demandait au directeur à quoi elle servait. Le directeur répondit que c'était l'endroit où l'on déposait les morts. « Oh, vraiment ?» fit l'Anglais, quand Nekhludov lui eut traduit cette réponse. Et il dit qu'il serait bien heureux de pouvoir entrer. Le directeur fit apporter une lampe et introduisit les deux visiteurs dans la chambre des morts. C'était une grande chambre carrée, toute pareille aux autres. Dans un coin étaient entassés des sacs, dans un autre coin on avait rangé une pile de bûches. Au milieu, sur des couchettes, quatre cadavres gisaient. Le premier de ces cadavres, vêtu d'une chemise et d'un pantalon, avait une petite barbe pointue et la moitié de la tête rasée. Le froid avait déjà engourdi les membres. Les mains, qui évidemment avaient été jointes sur la poitrine, s'étaient séparées, et pareillement les pieds nus, disjoints, s'écartaient en fourche. Près de lui était étendue une vieille femme en veste et en jupe blanche, avec une toute petite natte de cheveux, un visage jaune tout ridé et un nez camard. Et près de cette vieille femme, on avait placé le cadavre d'un homme qui portait autour du cou un foulard bleu. Ce foulard bleu frappa Nekhludov, qui eut l'impression de l'avoir vu quelque part déjà. Il s'approcha et examina le cadavre de près. Une barbiche noire frisant un peu, un nez droit et solide, un grand front blanc, des cheveux bouclés, clairsemés au sommet de la tête. Nekhludov reconnaissait tous ces traits bien connus et ne parvenait pas à en croire ses yeux. La veille encore, il avait vu le même visage, tout animé de passion, tout contracté de souffrance. Maintenant, il le voyait immobile et calme, revêtu d'une beauté qui lui faisait peur. Oui, c'était là Kryltsov, ou du moins c'était toute la trace qu'avait laissée sa vie corporelle. Pourquoi a-t-il souffert? Pourquoi a-t-il vécu? Est-il enfin arrivé maintenant à savoir la vérité? Se demandait Nekhludov en considérant le cadavre. Et il se répondait aussitôt qu'il n'y avait point de vérité, qu'il n'y avait rien, rien que la mort. De toute son âme, il enviait Kryltsov, qui ne souffrait plus. Sans même penser à prendre congé de l'Anglais, qui examinait la salle funèbre avec un intérêt tout particulier, Nekhludov se fit conduire hors de la prison, afin de pouvoir méditer plus à l'aise, dans sa chambre, sur tout ce qui s'était passé durant cette soirée. Chapitre 29. Arrivé dans sa chambre, Nekhludov se mit à marcher de long en large, fiévreusement. Il avait l'impression que son affaire avec Katyusha était finie, à jamais finie. À jamais il avait cessé d'être utile à Katyusha. Et cette pensée le remplissait de tristesse et de honte. Mais il avait aussi l'impression que cette pensée n'avait plus désormais le droit de l'occuper, et qu'il avait maintenant à régler une autre affaire qui non seulement n'était pas finie, mais qui s'imposait à lui avec une force impérieuse. Il se sentait en présence de quelque chose d'effroyablement mauvais, qu'il avait le devoir de détruire, et qu'il ne savait pas comment il pourrait détruire. C'était ce quelque chose de mauvais qu'il avait jadis perdu lui-même, qui avait perdu Katyusha, et qui venait maintenant de perdre le cher et admirable Kryltsov, dormant là-bas avec son foulard bleu. Et Nekhludov revoyait les centaines d'hommes parqués, dans un air empesté, par d'indifférents gouverneurs, procureurs, directeurs de prison. Il revoyait les regards irrités de petits vieillards bravant les valets de l'Antéchrist. Il revoyait dans la chambre des morts le beau visage de cire de Kryltsov. Tout cela, toute la vie qui l'entourait, lui faisait l'effet d'un horrible cauchemar. Et de nouveau, il se demandait si c'était lui-même, Nekhludov, qui était fou, ou bien si cela était fou qui se tenait pour sage et tolérait une telle vie. Après avoir longtemps marché, il se jeta sur le divan. Et, machinalement, il ouvrit un des petits évangiles de l'anglais que celui-ci lui avait donné et qu'il avait déposé sur la table en vidant les poches de sa pelisse. « Il y a des gens qui prétendent qu'on peut trouver là-dedans une réponse à tout, » songeait-il, en ouvrant le petit livre au hasard des pages. Et il lut. Il était tombé sur un chapitre de l'évangile de saint Matthieu, le chapitre 18. En ce temps-là, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Or, Jésus ayant appelé un enfant, le mit au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne changez et si vous ne devenez pas petits comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Oui, c'est bien ainsi, se dit Nekhludov, en se rappelant comment lui-même n'avait goûté la paix et la joie de la vie que dans la mesure où il s'était fait petit, où il avait été pareil à un enfant. Et il lut ensuite, « Et celui qui recevra un tel enfant en mon nom, c'est moi qu'il recevra. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attachât au cou une grosse meule et qu'on le jetât au fond de la mer. » Nekhludov cessa de lire. Que peut bien vouloir dire « celui qui recevra » et aussi « en mon nom », sentant que ces paroles n'avaient aucune signification pour lui. Et que viennent faire ici cette meule au cou et ce fond de la mer? Non, tout cela n'est point pour moi. Cela n'est pas clair, cela n'a pas de sens. Il se rappela que plusieurs fois déjà, dans sa vie, il avait essayé de lire les évangiles et que toujours l'obscurité des passages de ce genre l'avait dérouté. Il reprit le livre, cependant, et lut les 4 versets suivants. Jésus y parlait des scandales, de la condamnation de certains hommes à la géhenne du feu, de certains anges appartenant à certains enfants et qui voient la face du Père dans les cieux. Quel dommage que tout cela soit si peu clair et si mal composé, songeait-il. Car on sent au fond quelque chose de beau qu'on aimerait à entendre mieux dit. Et il se remit à lire. Sachez que le Fils de l'homme est venu racheter et sauver ceux qui périssent. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 autres qui ne se sont point égarés. Et de même, ce n'est pas la volonté du Père qui est aux cieux qu'aucun de ses petits périsse. Oui, sans doute, ce n'était pas la volonté du Père qu'ils périssent. Mais cela ne les empêche pas de périr par centaines, par milliers. Et nul moyen de les sauver, pensa Nekhludov. Il lut encore quelques versets. Alors Pierre, s'étant approché, lui dit, « Maître, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui m'aura offensé? Devrais-je lui pardonner jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Car il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ce serviteur, tombant à ses pieds, se prosternait devant lui et lui disait, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Alors le maître de ce serviteur, ému de pitié, le laissa aller et lui remit sa dette. Mais ce serviteur, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant, « Rends-moi ce que tu me dois. » Et son compagnon de service, tombant à ses pieds, le supplia en disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais le serviteur ne voulut pas avoir patience. Et s'en étant allé, il fit jeter son compagnon en prison jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Ses autres compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent très attristés, et ils vinrent rapporter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit venir le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?»« Serait-ce donc cela ?» s'écria tout à coup Nekhludov, après avoir lu ces paroles. « La réponse que je cherche serait donc là ?» Et la voix intime de tout son être lui répondit, « Oui, c'est cela, ce n'est rien que cela. » Et le même phénomène se produisit chez Nekhludov, qui se produit souvent chez les personnes accoutumées à la vie spirituelle. Une pensée qui d'abord leur a paru étrange, paradoxale, fantaisiste, soudain s'éclaire à leurs yeux des résultats de toute une expérience jusque-là inconsciente, et devient aussitôt pour elle une simple, claire, évidente vérité. Ainsi s'éclaira soudain aux yeux de Nekhludov la pensée que l'unique remède possible au mal dont souffraient les hommes consistait en ce que les hommes se reconnussent toujours comme ayant une dette envers Dieu, et par suite comme n'ayant nul droit de juger ni de punir les autres hommes. Il comprit soudain que l'effroyable mal dont il avait été témoin dans les prisons et les convois, et que la tranquille assurance de ceux qui produisaient ce mal, ou qui le toléraient, que tout cela provenait uniquement d'une cause très simple. Tout cela provenait de ce que les hommes avaient entrepris une chose impossible. Étant mauvais eux-mêmes, ils avaient entrepris de corriger le mal. Des hommes vicieux prétendaient corriger des hommes vicieux. Or, étant vicieux, ils ne pouvaient que propager le vice, au lieu de le corriger. Étant corrompus, ils répandaient autour d'eux leur propre corruption. La réponse que Nekhludov cherchait avec angoisse sans pouvoir la trouver, c'était la même réponse qu'avait faite Jésus à Pierre. La réponse était qu'on devait pardonner toujours, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Mais non, impossible d'admettre que la chose soit aussi simple, se disait Nekhludov. Et cependant il savait, dès lors, avec une évidence absolue, que c'était là l'unique réponse, et non seulement au point de vue théorique, mais au point de vue pratique et immédiat. La chose lui semblait encore étrange et incroyable, habitué comme il l'était à des opinions opposées, mais il sentait, il savait qu'elle était hors de doute. L'objection ordinaire, qui consistait à demander ce qu'on devait faire des voleurs et des assassins, n'avait plus depuis longtemps aucun sens pour lui. Cette objection n'aurait eu de sens, en effet, que si les châtiments avaient fait diminuer le nombre des crimes, s'ils avaient corrigé les criminels. Mais l'expérience avait prouvé à Nekhludov que c'était le contraire qui se produisait. Depuis tant de siècles que les hommes s'acharnaient à punir le crime, l'avaient-ils supprimé, l'avaient-ils même atténué? Loin de l'avoir supprimé, loin de l'avoir même atténué, ils avaient contribué activement à le développer, aussi bien en dépravant les prisonniers par les condamnations qu'ils leur faisaient subir, qu'en ajoutant à la somme des crimes de ces prisonniers, aux crimes des voleurs et des assassins, leurs propres crimes, ceux de ces criminels que sont les conseillers de cour, les procureurs, les bourreaux, les juges d'instruction, les policiers et les gardes chiourmes. Et Nekhludov comprit soudain que cela devait être fatalement ainsi. Et il comprit que si la société et l'ordre social continuaient à exister, ce n'était point grâce aux magistrats avec leur cruauté, mais au contraire malgré eux, et parce que, à côté d'eux, les hommes continuaient à avoir pitié l'un de l'autre et à s'aimer l'un l'autre. L'Évangile avait enfin parlé au cœur de Nekhludov, s'était révélé à lui comme à tout homme qui consent à le lire. Et Nekhludov résolut d'en lire encore quelques pages. Il prit le discours sur la montagne, qui, de tout temps, l'avait beaucoup touché. Mais cette fois, en le lisant, il découvrit que ce discours n'était pas simplement un recueil de nobles pensées et d'images émouvantes, exposant un idéal moral à peu près irréalisable. Il s'aperçut que le discours sur la montagne ne contenait que des préceptes tout à fait clairs, simples, pratiques, faciles à appliquer, et dont l'application aurait aussitôt pour conséquence de créer une société humaine absolument nouvelle, supprimant toute violence et toute injustice, et, dans la mesure permise à la faiblesse humaine, inaugurant sur la terre le royaume des cieux. Ces préceptes étaient au nombre de 5. Le premier consistait à dire que l'homme non seulement ne devait pas tuer un autre homme, son frère, mais ne devait pas s'irriter contre lui, ne devait pas l'accuser, le mépriser, et que s'il s'était querellé avec un autre homme, il devait se réconcilier avec lui avant d'offrir aucun don à Dieu, c'est-à-dire avant de s'unir à Dieu par la prière du cœur. Le second précepte consistait à dire que l'homme non seulement ne devait point s'abandonner à la sensualité, ne devait point profaner la beauté de la femme en faisant d'elle un instrument de son grossier plaisir, mais qu'il devait, s'étant marié avec une femme, se considérer comme uni à elle pour toujours. Le troisième précepte consistait à dire que l'homme ne devait rien promettre sous serment, n'étant maître ni de lui-même, ni de quoi que ce fût. Le quatrième précepte consistait à dire que l'homme non seulement ne devait point exiger œil pour œil, mais qu'il devait, quand on l'avait frappé sur une joue, tendre l'autre joue, qu'il devait pardonner les offenses, les supporter avec résignation, ne rien refuser de ce que les autres hommes exigeaient de lui. Et le cinquième précepte consistait à dire que l'homme non seulement ne devait point haïr ses ennemis, ni lutter contre eux, mais qu'il devait les aimer, les aider, les servir. Nekhludov s'étendit sur le divan et se mit à rêver. Se rappelant toute la misère et toute la laideur de la vie actuelle des hommes, il songea à ce que deviendrait cette vie si les hommes consentaient à appliquer les préceptes qu'il venait de lire. et tout son découragement disparut. Un flot d'enthousiasme inonda son âme. Il sentit qu'après toute une vie de souffrance à travers les ténèbres, il venait d'apercevoir soudain la douce, la reposante, la bienfaisante lumière. Il ne dormit point cette nuit-là. Tout entier à la joie de la découverte qu'il venait de faire, il lut avidement les évangiles d'un bout à l'autre. Et ainsi que cela arrive à tous ceux à qui le sens général des évangiles s'est enfin révélé, il s'étonna, en lisant, de comprendre pleinement la signification de paroles que maintes fois il avait lues comme de simples images et sans y attacher d'importance. Comme une éponge dans un vase aspire toute l'eau qu'elle peut contenir, il aspirait tout ce qu'il y avait pour lui d'utile, d'important, de grave, de joyeux dans ce livre. Et tout ce qu'il y lisait lui paraissait lui avoir été depuis longtemps familier, car ce qu'il y lisait confirmait, expliquait des choses que depuis longtemps il pressentait, mais qu'il n'osait pas reconnaître pour vraies. Et maintenant, il les reconnaissait pour vraies, et il y croyait. Et non seulement il reconnaissait et croyait qu'en suivant les préceptes des évangiles, les hommes pourraient s'élever au plus haut degré de bonheur dont ils sont capables, il reconnaissait et croyait aussi que mieux valait pour un homme ne rien faire du tout que de ne pas appliquer ses préceptes. Il reconnaissait et croyait que ces préceptes représentaient l'unique raison d'être de la vie humaine, et qu'en y manquant, l'homme commettait une faute qui entraînait aussitôt son châtiment à sa suite. Cette conclusion résultait pour Nekhludov de tout le livre. Mais avec une clarté et une force particulières, il la trouvait exprimée dans la parabole des vignerons. Les vignerons s'étaient imaginé que le jardin qu'on leur avait donné à cultiver n'appartenait pas à leur maître, mais à eux-mêmes, et que tout ce qui était dans ce jardin, c'était pour eux, et que leur seul devoir était de faire servir ce jardin à leur propre jouissance. Oubliant leur maître et tuant ceux qui venaient leur rappeler leurs obligations envers lui. Ainsi nous faisons tous, songeait Nekhludov. Nous vivons dans la croyance que nous sommes nous-mêmes les maîtres de notre vie, et que celle-ci ne nous a été donnée que pour notre plaisir. Or, c'est une croyance insensée, évidemment insensée. L'homme n'est pas venu au monde de son plein gré. Quelqu'un doit l'y avoir envoyé, et pour quelque motif. Mais nous, nous avons décidé d'oublier cette évidence et de nous imaginer que nous n'avions à vivre que pour notre plaisir. Et nous nous étonnons après cela de souffrir et de nous sentir mal à l'aise, comme si ce n'était point la conséquence fatale de notre situation d'ouvrier se refusant à accomplir la volonté de leur maître. Et la volonté de notre maître, elle est exprimée dans ce petit livre. Cherchez le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Et nous, c'est le surcroît que nous cherchons, et nous nous étonnons de ne pouvoir le trouver. Oui, c'est bien cela qu'a été ma vie. Mais désormais, cette vie est finie, et une autre commence. Et en effet, de cette nuit commença pour Nekhludov une vie nouvelle. Et nouvelle non seulement parce que, cessant de penser tout à fait à lui-même, il s'efforça de ne plus vivre que pour servir les autres, mais nouvelle surtout parce que tout ce qui lui arriva depuis cette nuit, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fit, eut désormais à ses yeux une autre signification que par le passé. Comment se terminera cette nouvelle période de sa vie ? C'est ce que l'avenir montrera. 12 décembre 1899. Fin.